Salut et bienvenue dans Gueule de bois. Je suis Peter Kummel et j'ai écrit le livre « Savanallée ». C'est un livre qui traite d'amour et surtout de dépendance, en particulier à l'alcool. J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de libérer ma parole, mais aussi parce que je voulais que les personnes touchées par les addictions se sentent moins seules. J'ai créé ce podcast parce que le sujet me passionne et qu'on n'entend pas assez d'informations, de témoignages sur les addictions. Et parce que quand je galérais moi-même avec l'alcool, avec la coke, j'aurais aimé pouvoir entendre d'autres personnes en parler. Ce podcast est fait pour les personnes touchées de près ou de loin par les addictions, pour celles et ceux que le sujet intéresse, pour démystifier, pour déculpabiliser, pour partager. Chaque addiction est abordée à travers quatre regards différents, celui d'une personne qui consomme, d'une personne qui travaille dans le secteur médical, une personne abstinente et enfin une personne de l'entourage. Pour ce quatrième épisode, autour du travail, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre. Jean-Pierre a 69 ans et est à la retraite. Il est le père de Nora, avec qui je discute lors du premier épisode. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Donc tu es le papa de Nora, avec qui je discute lors du premier épisode sur le travail. Est-ce que tu as écouté l'épisode ?
J'ai écouté de façon très superficielle pour me faire une idée de la façon dont ça allait se passer, mais pas pour analyser ce qui était dit ou réfléchir sur ce que j'allais dire ou des choses comme ça. Là, je suis complètement à froid.
Et c'était... Enfin oui, c'est uniquement pour ça en fait que t'as pas voulu écouter entièrement ou...
Oui.
C'était pour essayer de garder une distance.
Tout à fait, pour ne pas être influencé par ce qu'elle allait dire par rapport à ma propre vision, parce que je sais qu'on a tous les deux des visions assez séparées, je vais dire, de son comportement par rapport au travail et la façon dont elle voit l'intérêt de ce qu'elle fait par rapport à moi qui ai eu, je pense, des très longues expériences et des emplois très variés où j'ai rencontré toutes sortes de situations.
Qu'est-ce que tu penses de sa relation au travail ?
De sa relation au travail ?
Oui, sa relation à elle.
Je pense que dans le travail qu'elle fait actuellement, elle est dans une situation assez compliquée qui ne correspond pas forcément à ses désirs profonds de relation avec les autres. C'est-à-dire que là, en plus de ça, la situation actuelle de confinement ne met pas déjà les personnes en relation directement. On travaille à travers un écran, à travers des vidéos et tout. Nora, je pense, c'est quelqu'un qui a besoin du contact direct des personnes et se trouve un peu désemparée hein, quand elle parle en face d'un écran d'ordinateur, face à une caméra, quoi. Donc elle a eu, et je pense que son ancien job qu'elle avait à Singapour, avec une équipe d'étudiants, c'est quelque chose qu'elle a très très bien vécu. Et quand on quitte quelque chose de très bien pour avoir quelque chose de compliqué, ou c'est du just in time, il faut quand même... Aller astreinte à des délais, à un nombre important de réunions, elle ne voit pas forcément l'avancement. Ce n'est pas un travail d'équipe. Chacun fait un peu son petit truc dans son petit coin et à un moment, on essaie de recoller les morceaux et bien souvent, ça ne se recolle pas si on n'a pas travaillé ensemble. Alors que sur le projet qu'elle avait avant, elle travaillait avec son équipe d'étudiants dans une même direction. Moi, je lui ai tout de suite dit que plus elle occupait des fonctions importantes, plus elle allait se retrouver confrontée à des problèmes administratifs, de gestion de budget, de relations avec un personnel pour lui donner des directives, et non pas un travail transversal où on est comme une bande d'amis, on est en train de participer. Disons sans distinction de hiérarchie. Là, c'est très cadré, elle est très enfermée dans un système où il y a des décisions à prendre rapidement. Moi, elle me dit la plupart du temps qu'elle ne voit plus du tout l'aspect technique. Elle aurait bien voulu se charger de cette partie-là, mais en tant que coordinatrice, elle ne peut plus le faire. Et ça lui manque beaucoup.
Est-ce que tu penses lui avoir transmis des valeurs par rapport au travail?
Alors là, on arrive dans un vaste sujet où la transmission ne se fait pas comme à l'école où l'enseignant transmet un savoir cadré à ses étudiants. On est dans une relation de tous les jours où on est plutôt dans l'observation de l'autre et on lui donne pas, on lui donne pas systématiquement des conseils. Donc, si on reprend nos premières relations, quand elle était collégienne ou lycéenne, elle était très autonome et très concentrée sur son travail et n'avait pas beaucoup de difficultés à digérer les enseignements qu'on lui donnait. Après, quand elle est partie en école d'ingénieur, là, à cette époque-là, en même temps que j'explique, que je me remémore des faits, il faut que je signale quand même quelque chose qui est important. C'est qu'elle, assez jeune, moi, je l'ai quand même trouvée intéressée par énormément de choses. Et une année, je vais raconter une petite histoire, mais qui a son importance. Assez rapidement, à Noël, je lui ai offert un cadeau qu'on n'offre pas généralement aux filles. Je lui ai offert un mécano, qui est plutôt un cadeau de garçon. Et d'ailleurs, à l'époque, mon épouse m'avait un peu reproché, ouais, un mécano, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec un mécano? Et moi, je trouvais que faire du montage, créer des petits objets, des petites autos, des petites grues, c'était quand même quelque chose de très intéressant. Et effectivement, elle s'est bien intéressée à cette chose-là.
Bah oui, parce que c'est toute sa carrière finalement.
Oui. Et dans la première année, Nora, en école d'ingénieur, a eu un projet où elle avait des cours d'atelier où elle devait construire quelque chose, elle devait construire un objet. Et donc elle devait se servir de la soudure, de différentes machines. Et moi j'étais content quand elle rentrait à la maison pour expliquer son projet et qu'elle me racontait, oui, j'ai dû cintrer des tubes avec une magorie. Et donc on se parlait, je vais utiliser une vilaine expression, mais il faut pas la prendre mal, c'est on se parlait presque d'homme à homme. Ou alors je vais dire, ça pourrait être mal pris d'homme à homme, mais je vais dire plutôt de mécanicien à mécanicien. On parlait de soudure, de comment on allait faire pour fixer telle pièce. Et en fait, elle a fait une table de salon qui était très jolie. Donc elle a dû sculpter le panneau de bois. Et donc à ce moment-là, il y a eu une grande complicité entre nous par rapport au travail. Je pense que pour les trois enfants, c'est Nora, celle qui a été la plus proche de moi dans sa carrière professionnelle. Ça n'a pas toujours correspondu à 100% à ce que moi-même je savais faire, mais après, quand elle est rentrée dans les métiers de l'automobile, on a eu aussi de bons contacts quand on a parlé notamment, elle a travaillé, je me souviens, pour une grande société allemande sur c'est une société allemande où les voitures sont faites en aluminium et elle devait s'occuper du recyclage des carrosseries qui étaient faites en alu. Et donc là, on avait des discussions assez intéressantes sur qu'est-ce qu'on allait faire avec cet alu et pourquoi si et pourquoi comme ça et pas autrement. Voilà, donc on a eu une complicité. Mais jusqu'à cette époque-là, elle semblait très heureuse dans son travail, quoi, je veux dire. Jusqu'à cette époque-là, je ne sais pas si À un moment, elle a eu un problème relationnel, alors que Nora est quelqu'un de très souple et très sociable. Et elle a eu une relation conflictuelle avec une personne qui devait lui donner des directives. Là.
Et
Et là, il y a
justement.
eu un premier petit accrochage. Là. On s'est
Ouais.
aperçu que ça ne tournait pas comme elle le souhaitait, quoi. Et effectivement, la personne lui a cherché je vais dire vulgairement, des poux dans la tête, quoi.
Tu parles de son licenciement? Quand elle s'est faite licencier ou c'est arrivé
Ah
après?
oui, c'est suite
C'est
à ça.
oui. Parce que justement, je voulais te demander.
Elle a été licenciée.
Oui. Mais justement, c'était une de mes questions. Parce qu'elle en parle en fait dans le premier épisode de ce licenciement et de comment elle l'a vécu. Et je me demandais comment toi, tu avais vécu son licenciement.
Moi, personnellement, je n'ai jamais été licenciée. Elle étant une sous-traitante, en fait, de la société en question, c'était très facile de lui dire on arrête le contrat, on ne vous prend plus. Donc, il n'avait pas absolument à devoir rendre des comptes. Elle, effectivement, elle l'a vécu comme un licenciement. Parce qu'elle a quand même son amour-propre qui est assez important, c'est normal. Hein, on a tous un ego, un amour-propre à défendre. Et ils ont mis brutalement un terme au contrat qu'elle avait dans cette société. En tant que parent, j'étais contrarié, mais en tant qu'homme de l'industrie, puisque moi-même j'ai fait toute ma carrière dans différentes industries, je comprenais la situation et
Ah oui?
oui, pour moi, je disais à Nora, c'est une péripétie, ne t'en fais pas, il y en aura d'autres. Quand je dis ça, je reprenais une phrase que m'avait dit un jour un de mes chefs de service, où j'avais été m'excuser parce que quelque chose s'était pas bien passé, et où il m'avait sorti cette phrase-là, m'avait dit Jean-Pierre, vous en faites pas, c'est une péripétie et vous verrez, il y en aura d'autres. Donc ça va un aspect rassurant quand même, quoi. Donc maintenant, moi, je lui ai dit ces choses-là. Maintenant, on n'est pas dans la peau de la personne en question et on n'a pas tout vécu de cette situation. Effectivement, hein, quand on est mis en porte-à-faux alors qu'on essaye de bien faire et que tout d'un coup, on a essayé de la casser. Je pense que le terme n'est pas trop fort de dire que cette personne a tout fait pour la casser, quoi, pour s'en débarrasser. Voilà.
Est-ce qu'on peut considérer le travail comme étant le ciment de votre relation, Anora et toi?
Ah, la relation d'un parent avec son enfant, ça serait un peu dommage que ça soit lié qu'à un problème de professionnel ou de relation dans le travail. On n'a quand même pas. J'essaie toujours, disons que moi personnellement, j'essaie toujours de plus donner des conseils, de garder un certain détachement par rapport à leur action. On a vécu ensemble bien d'autres choses que simplement le travail, quoi. Je dirais plutôt que le travail, ça a été tout simplement une sorte de clin d'œil complice entre nous deux. Voilà, ça, moi je le vois comme ça.
Ça s'ajoute à quelque chose de déjà existant.
Oui, voilà. Je crois que ça serait dommage de dire à un parent le travail, non, ou un clin d'œil, ou alors une cerise sur le gâteau. Voilà, ça a été un peu ça, quoi. Elle a son caractère, elle a sa fierté, moi je suis son père, et il arrive un moment où on ne peut plus dire à un adolescent, à une adolescente, on ne peut plus dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Je veux pas mettre une pression. Je pense que moi, effectivement, pour parler de moi égoïstement, je pense que un peu trop souvent, ma mère surtout m'a dit tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et donc, du coup, j'ai essayé de ne pas le faire avec mes enfants. Ouais. Et en particulier avec Nora, il fallait que habilement je dise je l'amène à faire un petit peu comme je voulais, mais que ça vienne d'elle, évidemment, pour qu'elle l'accepte plus facilement.
On sent la manipulation.
Voilà, une sorte de...
une manipulation gentille.
Voilà, voilà. Je pense qu'on est quand même assez ouvert à pas mal de choses. Alors, il y a quand même une grande différence. Alors, je ne sais pas si on peut aborder ça maintenant, mais je pense qu'il y a une grande différence entre Nora et moi. C'est que moi, j'étais 100% travail. J'ai assez rapidement senti que Nora avait un aspect, oui, je travaille, mais il me faut aussi du loisir, il me faut aussi du plaisir, il me faut aussi ce temps libre qui vient un peu, disons, soulager les moments où je dois rester concentré. Et donc, ça m'embête de parler de moi comme ça, mais je me souviens en particulier au collège, de mon professeur de mathématiques. J'ai beaucoup aimé certains de mes professeurs, et en général j'aimais bien mes professeurs. Et ce professeur de mathématiques avait dit, dans la vie, si on est courageux, on y arrive. S'il faut d'abord être courageux, et si on est courageux, on y arrive. Ouais. Et donc j'ai toujours eu peur, et j'ai toujours eu un œil sur mes trois enfants, et en particulier sur Nora, parce qu'il me semblait qu'elle avait ce petit côté un peu, j'ai besoin aussi de loisirs, j'ai besoin de m'amuser. J'ai toujours un petit peu de ce côté-là eu plutôt des frictions que du ciment.
Mm-hmm.
Voilà. C'était mais je reconnais que si je la compare aux autres jeunes, je crois que c'est un problème générationnel, parce que si je la compare à d'autres jeunes, l'ensemble des personnes de son âge sont tout à fait comme ça, sont tout à fait dans cet esprit où on travaille, d'accord, mais on a besoin aussi de la liberté pour s'amuser, pour vivre, alors que nous, une génération avant, et puis la vie... La vie était plus difficile, et nos parents nous avaient aussi inculqué une façon différente de voir les choses. En plus de ça, on n'avait pas toutes les possibilités de loisirs qu'il existe maintenant et qui existaient pour eux, quoi. On utilise l'expression, faut s'amuser, faut avoir des distractions, mais il faut pas non plus papillonner à droite et à gauche et pas trop se disperser pour peut-être au final... Ça ne rapporte rien du tout, et voilà.
J'allais un moment aussi te poser la question. Qu'est-ce que tu pensais justement des générations aujourd'hui sur leur rapport au travail, et notamment le fait qu'elles gardent rarement le même employeur toute leur vie ?
Alors, je n'ai pas du tout été choqué par cela, étant donné que moi-même, j'ai changé énormément de métier tout au long de ma carrière. En général, j'ai jamais fait plus de 3 ans la même chose.
C'est vrai ?
Oui.
Wow, mais c'est rare, ça.
Oui.
Est-ce que les autres te confrontaient ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était mal vu dans ton entourage de changer
non,
comme ça ?
Non, du tout. Non, du tout, du tout, du tout. Au contraire, les employeurs, je pense que ça m'a servi plus que ça aurait pu me desservir. Ça ne m'a pas du tout desservi, ça m'a servi beaucoup. Et j'ai été choqué par moments dans certains emplois que j'occupais, où il y avait eu une réunion de tout le service, où le chef de service annoncer, vous savez, le service va peut-être être dissous et il va falloir se réorienter vers d'autres choses. Et je me souviens autour de la table de certains collègues qui disaient « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais faire que ça, mais j'ai fait ça. Mais ça fait 15 ans, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Alors moi, je ne sais faire que ça. » Alors que moi, j'avais déjà touché à pas mal de choses et j'avais changé de façon régulière. Je sais qu'au début, j'avais fait le calcul, je changeais tous les 3 ans. Bon, vers la deuxième partie de ma carrière, après, je me suis stabilisé dans la mesure ou dans mon activité. J'ai eu une progression interne assez intéressante qui m'a permis de toute façon d'avoir des affaires de plus en plus conséquentes et de plus en plus intéressantes à m'occuper. Hein. Mais jusque l'âge de 45 ans, oui, j'ai changé de trois fois d'entreprise. C'était toutes les trois des grosses entreprises. Et dans chaque entreprise où je passais en général 10 ans, et ben je changeais de job tous les 3 ans. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout, effectivement, à l'heure actuelle, quand on parle de que les gens changeront un certain nombre de fois de métier dans leur vie, ça me paraît quelque chose de... Ça donne une ouverture d'esprit très importante. Je pense qu'il faut en passer par là, oui. Je plains les gens qui sont dans des tâches administratives et qui font ça toute leur vie. D'ailleurs, pas seulement ces personnes-là. Quand je pense, par exemple, au dentiste, ou quand je pense à un avocat, ben, ces gens-là qui ont des jobs très intéressants, finalement, et à longueur de journée, ouvrez votre bouche, je vais soigner votre carie. J'aurais pas su faire, quoi. J'aurais pas su faire. Ça me semble être absurde de passer 30 ou 35 ans
À faire la
à...
même
Ah,
chose.
oui. Et ça, par contre, pour compléter ta question, et ça, je l'ai bien expliqué à Nora, je lui ai dit, ne te fais pas de soucis. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, un jour, ça te servira. Un jour, tu pourras le ressortir. Laisse bien ça quelque part dans ton cerveau, dans un petit coin, et tu verras qu'un jour, tu auras besoin des expériences que tu as vécues là et des informations que tu as collectées à cette époque-là.
Tout à l'heure, tu as mentionné ta mère, et justement, Nora en parle brièvement dans son épisode, où elle la décrit comme assez stricte ou en tout cas fort dans le contrôle. Alors, je me demandais enfin, ce que tu en pensais et comment tu avais vécu ton enfance dans ce contexte. Est-ce que tu la trouvais sévère avec toi?
Ma grand-mère était, je remonte plus loin, moi. Ma grand-mère était très sévère avec ses enfants. Maman a été sévère avec ses enfants aussi. Et les temps étaient différents. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé dans un magasin en ville un de mes anciens professeurs que j'avais beaucoup aimé. Je suis allé discuter avec lui, j'ai reparlé de l'enseignement et de cette époque où j'étais son élève. Je lui avais dit, je vous ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous faisiez votre cours et tout. Et il m'a regardé étonné en disant, ah bon, ben, je suis content. Il dit, parce que c'était quand même une époque où on était très sévère. Et il a ressorti ça, ce professeur. Mais il nous a appris à être précis, à travailler les choses finement. Alors que maintenant, je pense qu'on est plus dans le survol, on fait les choses, mais je pense qu'on n'a pas le temps de les finir déjà. En revenant par rapport à ma mère, je me souviens, et ça je le répète à mes trois enfants, et notamment à Nora, maman disait toujours, dans la vie, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ça, c'est quelque chose d'important que j'ai expliqué à mes enfants. Il est hors de question de bâcler quelque chose. À ce moment-là, il ne faut pas le faire du tout.
Je suppose que si ta grand-mère était stricte avec ses enfants et que ta maman à toi était stricte avec toi, tu étais stricte avec tes enfants.
Oui, j'étais plutôt... C'est vrai que j'étais... Ils me l'ont fait observer plusieurs fois. Ils ne se gênaient pas pour me le faire observer. Et... D'ailleurs, bon, y avait un petit gag que je leur faisais toujours. On partait quelquefois en camping pour le week-end. Et le soir, on rentrait, enfin le soir ou le dimanche soir, on rentrait du week-end dans l'auto. Alors qu'on approchait de la maison, je leur disais, les enfants, qu'est-ce que vous faites tout de suite en arrivant à la maison? Et alors, ah ben je vais aller jouer avec mes Barbies. Ah ben moi je vais aller faire ça. Et moi je disais, non, 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 non. On aide papa et maman à décharger la voiture. Et alors, c'était devenu un rituel. Et bien sûr, à la fin, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'on fait ce soir en arrivant? Et puis j'entendais les trois voix derrière. On aide papa et maman à décharger la voiture. Donc c'était assez amusant. Donc c'était pour donner un peu l'esprit, quoi, que je voulais leur. Voilà, on est une famille, mais on est aussi un groupe. Tout le monde doit participer un petit peu au travail collectif. Mais je reconnais aussi que par rapport à notre vie, à nous, où il y avait assez peu de distractions, on ne pouvait pas jouir de la vie comme on jouit maintenant, parce que le monde n'était pas ouvert comme il était maintenant. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, que la génération des gens comme moi qui sont nés à la moitié du XXe siècle, on n'avait pas ce monde ouvert.
J'ai l'impression aussi que tout ce que tu dis, tout ça, mais aussi la sévérité, etc., dans l'éducation, par exemple, enfin, et tout ce rapport au travail, ça tend vers un certain perfectionnisme qui parfois peut devenir maladif. C'est notamment, tu vois, une chose avec laquelle on discute. Parfois avec Nora sur ce perfectionnisme qu'on peut avoir et qui parfois pourrit la vie en fait et que
C'est vrai.
est-ce que toi-même tu es perfectionniste et tu penses que tu as transmis ça aussi?
Je suis un perfectionniste, hein. Quelquefois, c'est un handicap d'ailleurs, hein. Il arrive des moments où, en voulant être perfectionniste, on n'arrive pas au bout des choses. On a plutôt tendance à abandonner parce qu'on se dit effectivement, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à amener. Bon, quand je fais de la peinture, des choses comme ça, je veux absolument qu'un tableau soit. Il faut qu'un tableau, il soit arrivé à maturité quand il va se porter tout seul, quand il sera devenu autonome. Ça nécessite quand même. Moi, je dis la peinture, c'est pas un plaisir, c'est un travail. Et si on veut que ça soit beau, il y aura une certaine quantité d'efforts à fournir. Je considère que le peintre du dimanche, et j'espère que j'en suis pas un, le peintre du dimanche, il fait ça en dilettante et il arrivera à pas grand-chose. Les peintres qui sont devenus célèbres, bon, j'espère que ça m'arrivera pas parce que là, là je serai un peu contrarié, mais les peintres qui sont devenus célèbres, c'est en travaillant beaucoup pour aller au fond des choses. Mais c'est vrai aussi que, alors, on ne peut pas non plus, alors effectivement, pour rebondir sur ta question, il ne faut pas que ce perfectionnisme qu'on a, ça envahisse toutes les facettes de notre vie. Voilà. J'ai jamais demandé aux enfants d'être perfectionnistes.
Mais je trouve ça très intéressant que tu mêles le travail à l'art, parce que c'est pas quelque chose qu'on associe en général dans l'esprit collectif. L'artiste et le travailleur, on dissocie ça. On a tendance à oublier que l'art, c'est du travail aussi.
Oui, tout à fait, oui. Alors, il faut faire attention à ce terme artiste, qui ne veut pas dire grand-chose.
Bah, un écrivain ou un peintre,
Oui.
bah, quelque part,
C'est,
c'est.
oui, mais enfin, il faudrait pas banaliser ce terme artiste en disant, voilà, moi je fais de la peinture le dimanche, je suis un artiste. Non, c'est pas ça. Moi, je veux que derrière cette notion d'artiste, il reste quelque chose d'important et de reconnu par ses pairs. Et donc, sur mes cartes d'identité de peintre, je n'ose pas écrire artiste. Je trouve que ça serait d'une prétention beaucoup trop grande de mettre ce terme-là. Non, je suis un amateur de peinture.
J'ai l'impression que la plupart des artistes ont beaucoup de mal à se dire artistes, pour ceux qui le sont.
Oui, c'est vrai, je pense aussi, oui. C'est une bonne remarque. Ouais.
Alors, tu es à la retraite. Comment tu as vécu ce passage à la retraite?
Maintenant que je suis à la retraite, j'ai plus du tout de temps libre. Alors qu'on croit qu'à la retraite, on va avoir du temps libre, c'est totalement faux. Parce que autour de vous, on vous dit, ah ben maintenant, Jean-Pierre, maintenant que tu es à la retraite, tu pourrais pas me faire ci, tu pourrais pas me faire ça. Ah, mais toi, tu es à la retraite, tu as le temps, toi, occupe-toi de ça pour nous. Nous, on travaille encore, on n'a pas le temps. Donc, le retraité, il est quand même. Et encore, je n'ai pas de petits-enfants à m'occuper, parce qu'en plus de ça, je pourrais avoir ces choses-là à faire. Et je m'intéresse à pas mal de choses. Donc, j'ai pas mal de. J'ai plus du tout de temps libre. J'ai plus du tout de temps libre. Ouais. De ce côté-là, je regrette l'époque où je travaillais,
C'est
où j'avais
vrai?
mes week-ends, alors que là, même les week-ends n'existent pas. Ce sont des jours comme les autres et il y a toujours beaucoup de choses à faire, quoi.
Et c'est quoi principalement toutes ces activités que tu fais maintenant?
On a parlé de ça avec Nora il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, on avait un peu anticipé pourquoi je suis surbooké, pourquoi j'ai trop de choses à faire. Et effectivement, je lui avais dit, tu sais, moi, s'il y a un problème électrique, je vais d'abord essayer de m'en occuper moi-même. S'il y a un problème avec le lave-linge, je vais essayer de m'en occuper moi-même. S'il y a un petit peu de travaux à faire, un peu de ciment pour recoller un carrelage ou faire un joint, ou regarder pourquoi la table elle est bancale, je vais essayer de faire moi-même. Du fait que j'ai changé énormément d'activité, je suis rebuté par rien. Je suis ou je me sens capable de m'occuper de beaucoup de choses simples. Par exemple, avant, à l'heure actuelle, c'est plus faisable. Mais auparavant, on pouvait faire soi-même l'entretien des voitures. Bon, maintenant, avec les nouvelles voitures, la façon dont sont construits les moteurs et toute la partie électronique, là, ça devient vraiment très compliqué. Mais il reste encore beaucoup de choses, à la maison où on peut s'occuper, soi-même. J'ai aussi, alors, je me suis aussi lancé dans une collection de cartes postales anciennes. Que j'ai récupéré au décès de mon père, j'ai récupéré son ancienne collection de cartes et je fais pas une étude, disons que je compare l'architecture du début du XXe siècle, de Malo-les-Bains et de Dunkerque, par rapport aux modifications qui ont eu lieu suite à la guerre ou des choses comme ça. En fait, j'ai une grande curiosité et je m'intéresse facilement à des choses. Et donc, je te vois un peu venir. Tu pourrais me dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et là je me sens pris dans un piège, que je papillonne un petit peu
Ah, et ben j'avais
avec
même
l'arrivée de
pas
la retraite.
pensé.
Et il faut faire attention à ça. Effectivement, peut-être que aussi quand on est à la retraite et qu'on est fort intéressé, qu'on est fort curieux, eh ben, on peut se mettre à papillonner. Ouais. Ce qui expliquerait pourquoi aussi qu'après tout d'un coup on n'a plus beaucoup de temps pour faire des choses plus importantes que d'autres. Ouais.
Mais après, ça a l'air agréable aussi de
Oui.
papillonner. Je veux dire, s'il y a bien un moment où on peut se permettre d'un petit peu papillonner,
Oui.
c'est à ce moment-là,
À la retraite.
à la retraite.
Ouais, c'est vrai.
C'était quoi ton métier? T'as eu plein de jobs différents, du
Il
coup.
faudrait dire, c'était quoi tes métiers?
C'était quoi tes métiers?
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas... Enfin, c'était des métiers vraiment différents à chaque fois? Ou est-ce que tu avais ta spécialité à toi et que tu offrais dans tes nouveaux, pour tes, à tes nouveaux employeurs?
Disons mon fonds de commerce, je vais appeler ça comme ça. Mon fonds de commerce, c'était la grosse industrie de l'acier. Donc, aux différents emplois que j'ai occupés, soit dans des entreprises privées, soit dans des entreprises publiques, je suis de toute façon resté à tourner autour des grosses fabrications de produits en acier. Donc, la métallurgie, la résistance des matériaux, le soudage, la chaudronnerie, je suis malgré tout resté. J'avais ça comme fonds de commerce et suivant l'entreprise, après, dans certains cas de figure, je devais après mettre en œuvre l'utilisation des produits. Dans d'autres, j'étais plus tourné carrément sur la réalisation de la qualité du produit. Voilà. Alors après, en prenant de l'importance, il arrive un moment où on fait du management. Hein, plus on monte, on s'occupe de budget, on s'occupe de management. C'est d'ailleurs un peu ce que Nora vit actuellement, et ça lui plaît pas. Et c'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, je comprends bien son problème. Parce que moi-même aussi, c'est vrai que quand on a l'esprit curieux et qu'on travaille sur des produits, après, quand on doit s'occuper de relations humaines, de gestion personnelle ou de gestion de budget, c'est plus du tout la même chose. Et il faut avoir envie de le faire, quoi. Si on n'est pas né pour ça, on n'est pas né pour ça. Et c'est un peu son souci actuel, son activité actuelle, je pense. Et moi, je la presse de retourner vers des activités plus techniques.
Est-ce que tu penses avoir trop travaillé?
Alors, c'est une très très mauvaise question.
Ben, en plus, dans tout ce qu'on a dit, le
Maman,
travail est
maman, est
central.
maman est en train de parler dans le casque et elle me dit, on ne travaille jamais de trop. On ne travaille jamais de trop. Voilà ma réponse. Non, alors, non, plus sérieusement, il faut quand même pas sacrifier sa vie de famille, pour ceux qui ont une famille, ou on va plutôt dire sa vie privée, au travail. Ça, par contre, je pense que c'est pas. Il faut trouver un juste équilibre. Hein. Il faut quand même malgré tout rester un juste équilibre, parce que on travaille déjà pour gagner sa vie, pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, pour nourrir sa famille éventuellement. Et après aussi pour jouir un peu de la vie qui est finalement très courte. Donc oui, ça existe, on peut tomber parfois dans des situations de surdosage de travail ou parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on est fier, on est fier de soi, on ne veut pas s'avouer vaincu par le travail et on va essayer de. On compte plus ses heures. Et puis effectivement, ça peut devenir un burn-out, une dépression, des choses comme ça, effectivement, effectivement.
D'ailleurs, ce que tu décris là de ce trop plein de travail, de trop en faire et tout ça, j'ai l'impression que c'est exactement la description de Nora
Oui.
et de ce qu'elle fait en ce moment avec le travail,
Oui,
de cette surcharge, etc.
tout à fait,
Et
oui.
qu'on dirait, elle a l'air d'aller vers le burn-out, alors, enfin, elle a même parfois des soucis physiques, enfin, dus au stress du
Oui.
travail. Et
Parfaitement.
qu'est-ce que tu lui conseillerais pour calmer le jeu?
C'est une question très importante, donc on ne peut pas répondre à ce genre de choses superficiellement. Il faut connaître ses propres limites. Il faut déjà connaître ses propres limites. En même temps que Nora avait son souci, j'avais une dame que je connais depuis longtemps, qui était la coiffeuse de maman, mais qui est aussi ma coiffeuse. Et les conditions sanitaires du moment ont été tellement dures, que cette dame, un beau jour, elle a craqué. Elle a craqué, elle a dû arrêter de travailler, et elle disait, je venais au travail en reculant, je ne pouvais plus, j'en pouvais plus. Donc, je vais dire à ma petite Nora, fais attention, ne va pas jusqu'au bout, et essaie de bien comprendre ta limite. Et quand c'est trop, ben, tu t'arrêtes. Jamais, jamais personne ne te dira d'aller plus loin que ce que tu peux faire. Il ne faut absolument pas se laisser trop envahir par le travail et qui, effectivement, peut rendre malade et peut tuer. Je pense que dans certains cas, il y a sûrement eu des personnes qui s'en sont jamais remises hein, d'avoir été surchargées d'activités. Hein.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter?
Je dirais quelque chose tout spécialement orienté pour que Nora l'écoute. C'est qu'il faut quand même dans la vie bien savoir où on veut aller. Il faut savoir où on veut aller, c'est important. Il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir où on veut aller. Et c'est ça qui va absolument orienter nos décisions, je dirais, quotidiennes, journalières et tout. Il faut se donner un objectif de vie personnelle. C'est très important. Pas seulement compter sur les autres, il faut avoir un projet pour se sentir bien en soi et se sentir bien dans l'accomplissement de sa vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'elle doit se poser cette question-là. On n'a jamais vraiment abordé ce problème-là, tous les deux. Où veux-tu aller? Même, je dirais ça à tous les jeunes, comme toi aussi. Où veux-tu aller? Parce que tu as encore un grand morceau de vie devant toi. Maintenant, moi, que j'ai presque tout parcouru, c'est vrai que je reconnais qu'à plusieurs moments, je ne savais pas où je voulais aller. Mais on était dans un monde moins conditionnel, avait moins de possibilités. Donc je dirais que les chemins étaient parfois quand même tout tracés. Alors que maintenant, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire qu'il ne faut pas trop se disperser. Il faut se dire, voilà, moi, quel est mon but ultime? Le jour où je vais fermer mes yeux pour la dernière fois, est-ce que je serai content de ce que j'aurai accompli? Est-ce que j'aurai vraiment fait ce que je voulais? Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le mettre en place dès maintenant. À l'âge qu'elle a, il est temps qu'elle prenne cette décision-là. Savoir où elle veut aller et tout faire pour y arriver.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
De rien, je te remercie aussi.
Et c'est ainsi que se termine la deuxième série de Gueule de bois, autour du travail cette fois. Merci pour vos retours, vos partages. Cette émission est réalisée avec le matériel de Radio Panique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radiopanique.org ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. À bientôt.